Bonjour à tous ceux que j'ai pas salués. On va prendre un premier verset qui se trouve dans la Genèse, chapitre 45. Et on va lire le verset 8. Genèse 45 et verset 8. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Et c'est en partant de ce verset que j'aimerais commencer ce message. C'est ici la conclusion à ce que Joseph vient de subir depuis le jour où il s'est rendu vers ses frères pour aller leur chercher des nouvelles pour leur père. Son père lui avait demandé d'aller chercher, prendre des nouvelles de ses frères. Et puis quand il est arrivé là, finalement, il s'est retrouvé à des milliers de kilomètres en Égypte à cause de leur méchanceté. Mais sa conclusion, elle se trouve dans ces quelques mots, simplement, « Mais c'est Dieu ». Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Et Joseph attribue à son Dieu tout ce qui lui est arrivé avant cela. Il a été haï par ses frères, il a été persécuté, il a été rejeté, il a été vendu à une esclave, parti avec une caravane. Il a été victime d'un guet-apens injuste. On l'a jeté en prison, on l'a carrément oublié en prison, mais c'est Dieu. Ça, c'est sa réponse. Mais c'est Dieu. Et Joseph voit Dieu partout. Dans tout ce qui lui est arrivé, il reconnaît sa souveraineté sur sa vie. Mais c'est Dieu. Joseph a dit cette parole une fois qu'il était sorti de l'épreuve et qu'il avait été élevé au-dessus, prince d'Égypte. Et en général, on comprend mieux, après un certain temps, le pourquoi de nos épreuves. Mais est-ce qu'on est capable de dire « mais c'est Dieu » quand on est au sein de l'épreuve ? Parce que c'est là où on en a le plus besoin. Une fois que tout est passé, il est bon de reconnaître Dieu, de se tourner en arrière et dire « Ah, comment le Seigneur était là, et là, et il a fait ceci, il a fait cela pour moi. » Et on s'aperçoit du plan de Dieu et de tout ce qu'il a fait pour nous. Mais pourquoi attendre que tout soit passé pour voir que c'est Dieu ? Parce que finalement, c'est dans le cœur de nos épreuves qu'il est bon de s'apercevoir que c'est Dieu. C'est là où on lui fait confiance. C'est là où on en a vraiment besoin. Et on comprend mieux une chose, on l'accepte mieux quand on sait que c'est Dieu. Et c'est Dieu pour notre bien. Alors on va lire Genèse 37. On va commencer à lire l'histoire de Joseph. Genèse 37 et on va lire les versets 1 à 11. Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femmes de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous et le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe et le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Il leur dit « Écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. » Ses frères lui dirent « Est-ce que tu régneras sur nous ? Est-ce que tu nous gouverneras ?» et le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Il dit, « J'ai eu encore un autre songe, et voici le soleil, la lune, les 11 étoiles se prosterner devant moi. » Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, « Que signifie ce songe que tu as eu ? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner à terre devant toi ?» Alors, qu'est-ce qu'on apprend de Joseph ? On apprend qu'il a 17 ans, qu'il rapporte les méchants propos de ses frères à son père, ce que ses frères ne devaient pas supporter, ça commençait déjà mal. Et en plus de ça, on voit qu'il était vraiment aimé de son père, et son père ne s'en cachait pas. Il montrait qu'il avait une préférence pour Joseph, et ça redoublait de provoquer la jalousie de ses frères. Et lorsque Joseph a successivement ces deux songes, où très clairement il est représenté comme celui devant qui eh bien, ses frères, son père, vont se prosterner, alors là ses frères n'en peuvent plus. Ils commencent à le haïr vraiment dans leur cœur. Et ces deux songes étaient en fait prophétiques, ils annonçaient ce que Dieu allait faire. Est-ce que Joseph a fait quelque chose de particulier pour recevoir ces songes? Non, hein, voilà, il a reçu les songes, c'est Dieu. Il a simplement été choisi par Dieu pour cela. Et ça, c'est la première chose que j'aimerais relever au sujet de Joseph, c'est qu'il a été choisi par le Seigneur. Au travers de ces songes, on voit l'aboutissement du plan de Dieu pour la vie de Joseph. Un jour, il va être élevé à un rang supérieur au-dessus de ses frères, et même ses frères et son père viendraient se prosterner devant lui. Et ça, c'est ce que Dieu avait d'ores et déjà planifié pour la vie de Joseph. C'était clair. C'était son appel, on peut dire, c'était sa vocation. Et personne ne peut empêcher Dieu d'accomplir son plan, sa vocation dans la vie d'une personne qu'il a choisie. Ce qui veut dire que dans la suite de sa vie, Dieu allait tout mettre en œuvre pour accomplir le plan qu'il avait d'avance établi pour Joseph. Toute chose allait concourir à son bien parce qu'il était appelé selon le dessein de Dieu. Et on fait le parallèle avec nos vies chrétiennes, c'est exactement la même chose. On lit dans l'Épître aux Romains, vous pouvez l'écouter ou le prendre, Romains 8, 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils soit le premier-né de plusieurs frères. Dieu nous a connus d'avance. Dieu savait tout avant même que nous naissions. Il savait qu'un jour, en entendant l'Évangile, on répondrait à son appel. On croirait en Jésus-Christ, qui a été crucifié pour nos péchés. Alors, dans sa préconnaissance, dans sa connaissance du futur, de l'avenir, Dieu nous a élus, Dieu nous a choisis avant la fondation du monde. Il a porté ses regards sur nous et il nous a choisis, tout comme Joseph. Et Dieu a en quelque sorte prédestiné Joseph à devenir prince d'Égypte, et Dieu nous prédestine dans son amour à devenir semblable à l'image de son fils. Et de même que Dieu a tout conduit pour parvenir à l'aboutissement de son plan pour Joseph, Dieu est en train de tout conduire aujourd'hui pour nous, pour parvenir à son plan, l'aboutissement pour nous, qu'on devienne semblable à Jésus-Christ. Il agit dans notre vie par les circonstances qui nous arrivent, par les imprévus, par les problèmes, par les bénédictions, par les échecs parfois. Il fait tout concourir comme ça pour qu'un jour, eh bien, l'image de Jésus-Christ soit parfaite dans nos cœurs. Verset 12, lisons la suite. Les frères de Joseph étant allés à Sichem pour aller faire paître le troupeau de leur père, Israël dit à Joseph, « Tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem? Bien, je veux t'envoyer vers eux. » Et il répondit, « Me voici. » Israël lui dit, « Va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé et si le troupeau est en bon état, et tu m'en rapporteras des nouvelles. » Il l'envoya ainsi dans la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem. Un homme le rencontra comme il errait dans les champs. Il le questionna en disant, « Que cherches-tu ? » Joseph répondit, « Je cherche mes frères. Dis-moi, je te prie, où ils font paître leur troupeau. » Et l'homme dit, « Ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, « Allons à Dothan. » Joseph alla après ses frères, et il les trouva à Dothan. Et là, on voit ici que Dieu dirige celui qu'il choisit d'avance. Dieu voulait que Joseph trouve ses frères. Il aurait pu errer comme ça dans les champs longtemps, hein, mais parce que Dieu voulait qu'il trouve ses frères, il n'a pas erré si longtemps que ça. S'il avait erré dans les champs, eh bien il serait revenu chez son père, et puis voilà. Mais la volonté de Dieu, c'était qu'il trouve ses frères. Alors le Seigneur va permettre qu'il y ait quelqu'un qui s'intéresse à lui, qui dise « Mais qu'est-ce que tu cherches ?» Et justement, cet homme-là a entendu parler leur frère qui disait eh bien allons à Dothan. Donc il le met dans la bonne direction. Et Joseph ne peut pas se perdre. Il ne pouvait pas errer ne sachant pas où il allait. parce que Dieu l'avait choisi. Il s'occupait de lui, alors il était en train de le diriger pour qu'il aille jusqu'au bon port. Et on ne peut pas se perdre sur le chemin que Dieu a pour nous, puisque c'est lui qui nous dirige, c'est lui qui nous conduit et qui fait en sorte que nous arrivions là où il veut que nous arrivions. L'homme sans Dieu, il erre dans les champs, sans savoir où aller. Hein. C'est vrai, d'ailleurs, Ésaïe dit lui-même, « Nous étions tous errants comme des brebis. » Voilà, on ne savait pas où aller. Chacun suivait sa propre voie. Et sans Dieu, on ne peut que errer, sans savoir la direction à prendre, comme des aveugles. Mais une fois qu'on a été saisi par Jésus-Christ, eh bien, c'est plus la même chose. Joseph s'est vu tout de suite orienté dans la direction qu'il devait prendre, parce qu'il ne pouvait pas en être autrement. Dieu était en train de diriger sa vie pour son bien. Et il va en faire de même pour nous, sans peut-être même qu'on s'en rende compte. C'est Dieu qui dirige. Verset 18. Ses frères le virent de loin, et avant qu'il soit près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, « Voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. » Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ses songes. Et là, on voit ici que Dieu est celui, c'est Dieu qui peut permettre. C'est Dieu qui permet même des choses difficiles dans la vie de ceux qu'il a choisis d'avance. Est-ce que Joseph était responsable d'avoir reçu les songes? Non. Est-ce qu'il était responsable de ce que Dieu l'avait choisi? Même pas. Bien sûr, on pourra dire que Joseph peut-être a manqué de sagesse en racontant ses songes à ses frères, hein, puisque c'était clair qu'il disait qu'il leur était supérieur. Hein. Mais on ne peut pas le blâmer d'avoir reçu les songes et même de les avoir partagés à sa famille. Et le résultat, c'est la persécution. Et c'est Dieu qui le permet, c'est Dieu qui l'autorise. Joseph est maltraité par ses frères qui sont jaloux. Et ça, c'est une réalité qu'il faut accepter, c'est que Dieu permet des choses douloureuses, peu agréables, parfois dans la vie de ses enfants. Il laisse faire certaines choses. Il peut permettre qu'on nous fasse du mal. Ça arrivera comme pour Joseph, surtout quand on fera part que nous sommes élus de Dieu. C'est quand on partage notre foi, c'est entre guillemets quand on raconte notre songe, qu'à ce moment-là, eh bien, on nous déteste, on nous rejette, on nous maltraite. Si Joseph s'était tu, s'il avait rien dit, ben c'est tout. Hein. Peut-être la haine de ses frères n'aurait pas atteint un paroxysme comme ça. Ils auraient laissé Joseph tranquille, mais parce qu'il a parlé, ils l'ont rejeté. Et Dieu autorise, Dieu permet qu'on haïsse ses enfants. Jésus l'a dit, « S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. » Paul plus tard dit, « Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Et on doit apprendre à accepter des mauvaises réactions face à notre vie, face à notre foi ou parce qu'on est chrétien. C'est une gloire et non une honte que de porter le nom de chrétien. Il ne faut jamais, ne jamais oublier que c'est Dieu qui permet si quelqu'un s'en prend à nous. Pierre dit que le fidèle qui est outragé pour le nom de Christ est heureux parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Christ repose sur lui. Et la persécution, c'est la gloire d'un chrétien. Puisque quand il est persécuté, à ce moment-là, il a la grâce de Dieu et la gloire et l'esprit de gloire qui reposent sur lui. Et c'est à cela dont nous avons été appelés. Pierre le dit, hein, « Christ aussi a souffert pour nous, nous laissant un exemple, afin que nous suivions ses traces. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. » Lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Donc Dieu peut permettre des choses difficiles, du rejet, de la haine, de la persécution comme ça. Et il vise le but, un but, c'est que on devienne un jour semblable à Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'il permet des choses comme ça dans nos vies, qui sont difficiles. Il veut qu'on apprenne des choses aussi par la souffrance. Christ a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Mais si Dieu peut permettre comme ça des choses difficiles, Dieu aussi protège. Regardez verset 21. Ruben entendit cela et il le délivra de leurs mains. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Ruben leur dit, ne répandez point de sang, jetez-le dans cette citerne qui est au désert, et ne mettez pas la main sur lui. » Il avait dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Et là, Dieu permet, mais Dieu ne permet pas au-delà de ce qu'il a décidé. Et c'est très rassurant, quand on nous fait du mal, eh bien on peut être convaincu que c'est jusqu'à la limite que Dieu permet et jamais au-delà. Il voulait le tuer, Dieu dit non, vous irez jusque-là et pas au-delà. Et par Ruben, il l'a délivré. Et Dieu va toujours nous protéger en vue de la finalité qu'il a pour nous, qu'il nous réserve. Lorsque Jésus enseignait dans les synagogues et qu'on voulait mettre sa main sur lui, jamais on n'a pu se saisir de lui, jusqu'à le moment que Dieu avait déterminé, que le Père avait déterminé. Et c'est exactement pour nous la même chose dans le dessein de Dieu. Les torts, les méchancetés, la haine, ça ne peut pas dépasser la limite autorisée. Dieu garde son enfant, il le protège dans son plan. Et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas souffrir. Quand on lit les nouvelles des chrétiens persécutés dans les autres pays, on se dit, mais comment eux, parfois, torturent des choses comme ça. On se dit, mais c'est horrible. Mais c'est quand Dieu le décide, et uniquement dans la mesure où il le décide. Jésus a souffert pour nous, et il peut permettre qu'on souffre aussi pour lui. Pour Joseph, lui, sa vie ne devait pas s'arrêter là. Dieu avait en vue d'autres choses. Alors tous ses frères écoutèrent Ruben, et finalement ils le jetèrent dans la citerne plutôt que de le tuer. C'est Dieu qui protège. Verset 25, « Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galaad. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, « Que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang ? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. » Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne. Et ils le vendirent pour 20 sicles d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. Et on voit ici que c'est Dieu qui oriente. Il oriente son enfant comme il le souhaite. Ruben aurait pu finir par délivrer Joseph. Joseph serait retourné auprès de son père. Et puis hop, ça se serait arrêté là. Mais Dieu ne voulait pas ça. Dieu voulait qu'il soit orienté d'une manière différente. Alors, il permet qu'il y ait une caravane qui passe. Et puis, il y a une idée qui germe dans le cœur de Judas. Et finalement, il est orienté dans une autre direction. Comme Joseph, on sait que Joseph est un type de Christ, et dans toute la vie de Joseph, on n'arrête pas de voir Christ en filigrane, on peut deviner que Judas, qui est une image de Judas Iscariote, l'a pas vendu parce qu'il voulait protéger son frère, mais l'a vendu parce qu'il voulait faire un peu d'argent, comme Judas Iscariote. Mais c'est encore Dieu, c'est toujours Dieu qui est là, accompagnant Joseph dans toute sa vie. C'est lui qui oriente les choses de cette manière. Et Joseph est là comme un fétu de paille et il ne peut pas décider. Il ne peut rien décider. Hop, il est au gré des circonstances. Et Dieu peut agir de la même manière pour nous. Il peut nous orienter selon son bon vouloir. Parfois, il ne nous laisse pas le choix. J'ai mon père qui me racontait qu'il voulait acheter un billet de train par Internet. Par Internet. Il commence à taper, etc. Quand il arrive au moment de rentrer sa carte bleue, rejeté. Alors, il appelle sa banque, et puis on lui dit, ben non, il n'y a aucun problème, votre carte fonctionne normalement. Alors, il insiste, il prend le téléphone, il téléphone à la SNCF, il commande son billet, etc. Quand il donne le numéro de sa carte et tout ça, rejeté. Il retéléphone à sa banque. Ah non, mais votre carte fonctionne, il n'y a pas d'opposition, tout va bien. Il y a l'argent. Alors, finalement, il a baissé les bras. Il dit, mais si c'est pas possible, c'est pas possible. Et Dieu, parfois, fait des choses où il nous oriente et c'est pas possible de prendre un autre chemin. C'est pas possible. Je me souviens quand je suis allé à l'école biblique, je devais faire 3 ans. À l'issue des 3 ans, on m'a dit, non, tu fais 4 ans. Ah non, moi, je fais 3 ans, ça y est, je sais où je vais. Non, tu fais 4 ans. Eh bien, j'ai pas eu le choix. Les hommes me disaient non et Dieu me disait non. Et puis c'est tout. Quand Dieu oriente, eh ben, il faut se plier et on ne peut rien faire. Et Joseph n'avait pas le choix. Il s'est retrouvé esclave de ces Ismaélites. Hein, il est parti en caravane parce que Dieu l'avait choisi et il accomplissait sa volonté dans sa vie. Et il faut parfois accepter d'être orienté par Dieu dans sa volonté. C'est lui qui est le maître et ce n'est pas nous. Le prophète Jérémie l'a dit, il a dit « La voix de l'homme n'est pas en son pouvoir, ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas. » Ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas. Alors Joseph va se retrouver quelques semaines ou peut-être quelques mois plus tard, on ne sait pas combien de temps ils ont mis pour aller en Égypte, hein, verset chapitre 39 hein, et verset 1. On fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui et la postérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph, et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. On va s'arrêter là. Et là, on voit ici que Dieu forme celui qu'il a choisi. Et Dieu va former Joseph dans la maison de Potiphar. Les Égyptiens, à l'époque, qui étaient des chefs, comme lui, qui était un chef des gardes, étaient en général bien logés dans une grande maison. Ils avaient des serviteurs, ils avaient des esclaves, comme Joseph. Ils avaient plein de dépendances. Ils avaient probablement des champs, des cultures, des choses comme ça. Hein. Et Joseph se retrouve intendant de tout ça. Il devait gérer tout ça, faire la gestion des esclaves, des serviteurs, des récoltes, etc. Et Joseph ne le savait pas, mais Dieu était en train de le préparer petit à petit pour une gestion qui était bien plus grande, la gestion de l'Égypte tout entière. Dieu était en train de tout conduire pour sa formation. Et c'est Dieu qui nous forme. C'est lui qui oriente et qui fait en sorte qu'on puisse être façonné pour ce qu'il a prévu d'avance. Et on ne voit pas toujours ce que Dieu fait dans notre vie. Parfois, on est le nez dans les circonstances et on ne voit pas, eh bien, au-delà, le plan de Dieu. Mais Dieu peut permettre chaque rencontre, chaque épreuve, chaque responsabilité, chaque échec pour nous façonner en vue de ce qu'il veut que l'on devienne. C'est quelque chose de réel, vraiment pour la fin, le but, parce qu'il veut qu'on soit semblable à Jésus-Christ, ça c'est certain. Et puis parfois c'est aussi pour notre vie, parce qu'il a des œuvres préparées d'avance qu'il veut que nous accomplissions. Dieu nous forme jour après jour pour cela. Luc était un médecin, il était pointilleux, il devait être littéraire, très précis dans ce qu'il faisait. Et Dieu l'a choisi pour écrire non seulement son évangile, mais aussi les Actes des Apôtres, où il est très précis, il donne des détails, des lieux, des dates. Mais aussi au travers de ses écrits, de ses recherches, Luc, par tout son parcours, il a suivi Paul pendant un moment. Eh bien, il était en train d'avancer vers le but ultime, c'est-à-dire que Dieu le transformait petit à petit pour qu'il ressemble de plus en plus à Jésus-Christ, pour que Jésus-Christ prenne place en lui. L'apôtre Paul, lui, était un érudit, il était au pied de Gamaliel, cultivé, versé dans les Écritures, mais sans le savoir, Dieu était en train de préparer sa vie parce qu'il était choisi pour un jour écrire toute la doctrine, pratiquement, pour l'Église. Et pendant que, eh bien, il faisait tout ça, eh bien, en même temps, Dieu travaillait dans sa vie, était en train de parfaire son chemin pour qu'il puisse obtenir le prix de la vocation céleste, comme il dit lui-même. Jean, l'apôtre Jean, était plein d'affection, plein d'amour pour son Seigneur. C'était quelqu'un de très sensible, très attaché, très proche de Jésus. Et c'est Dieu qui le choisit pour écrire l'évangile de Jean. Évangile de Jean où c'est le Fils de Dieu, c'est Jésus, Fils de Dieu mis en avant. C'est lui qui nous décrit l'amour de Dieu dans ses épîtres. Et tout en faisant cela, Dieu était en train de le transformer aussi pour le jour de Christ. Et peut-être que Dieu, eh bien, sans qu'on s'en rende compte, mais Dieu est en train de nous former pour quelque chose, pour un service, pour des œuvres préparées d'avance, pour un témoignage à rendre quelque part, la capacité d'apporter quelque chose à quelqu'un, ou pour un but que lui seul connaît. Mais ce qui est certain, c'est qu'il nous façonne tous pour la finalité. Pour Joseph, la finalité, c'était gérer l'Égypte. Pour nous, la finalité, c'est d'être un jour comme Jésus-Christ. Et puis aussi, peut-être, de régner avec lui. Certains régneront avec lui. Donc, c'est Dieu qui nous forme. Verset 7 du même chapitre. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit « Couche avec moi ». Il refusa et dit à la femme de son maître « Voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison, et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu ?» Quoiqu'elle parlait tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage, et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant « Couche avec moi ». Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Et jusqu'à présent, on pouvait dire à chaque fois « C'est Dieu ». C'est Dieu, mais là on ne peut pas dire « C'est Dieu qui est en train de tenter Joseph ». C'est plus Dieu là. Pourtant, Joseph a été sérieusement tenté par le mal. Cette femme perverse a tout fait pour qu'il chute. Mais Jacques nous dit que Dieu ne tente personne et il n'est lui-même tenté par personne. Donc Dieu n'est en rien dans l'attitude de cette femme. Il a seulement permis, encore une fois, que ça arrive. Et on peut dire que Dieu nous éprouve. C'est Dieu qui nous éprouve. Et parfois par la tentation. Ici, tentation dans le sens de mise à l'épreuve. Comme un épreuve qu'on peut éprouver dans le feu pour savoir sa résistance, Dieu peut nous éprouver. Il peut laisser le diable mettre sous notre nez ce qui est pour nous une occasion de chute. Exactement ce qui nous fera tomber. Il le permet, il le laisse. Non pas parce qu'il veut notre chute, mais au contraire parce qu'il nous aime et qu'il veut nous affiner comme on affine l'or. Il veut nous parfaire dans notre volonté pour que notre volonté devienne plus forte, plus solide, plus ferme pour l'aimer, pour le suivre. Et ça, c'est ce qu'il a fait pour Joseph. Il a passé son serviteur au creuset, il a purifié ses désirs, il a affermi sa volonté de le suivre. Parce que quand on cède au péché, on s'affaiblit. Et quand on résiste au péché, quand on dit non, on s'affermit. On devient plus fort, plus solide, plus déterminé. Et ça, c'est le but de ce genre d'épreuve. Pourquoi, lorsque vous êtes célibataire, eh bien, justement, le sexe opposé vient vous tenter, vous aguicher, ou pourquoi ça arrive? Pourquoi, quand on a des problèmes financiers, il y a une occasion d'avoir de l'argent pas clair? Quelqu'un qui nous rend la monnaie un peu trop à la caisse, ou quelque chose. Pourquoi? Pourquoi ça arrive? Pourquoi c'est au moment d'une faiblesse qu'arrive la tentation qui peut nous faire chuter? Parce que le diable, lui, cherche notre chute, il veut nous faire tomber, et parce que Dieu, lui, cherche à nous affermir par l'obéissance. On obéit, on est affermi, on devient plus fort. C'est Dieu qui nous éprouve en laissant un peu de lest au diable, parce que Dieu nous aime et parce qu'il veut nous rendre plus forts. Et si Christ a été tenté avec des pains après 40 jours de jeûne, il est normal que nous, eh bien, nous puissions aussi être tentés pour que Dieu nous rende plus forts. Alors la femme de Potiphar va garder précieusement le vêtement de Joseph. Elle va donc l'accuser d'avoir voulu se jouer d'elle. Évidemment, son mari furieux prend Joseph et le jette en prison. Et là, on peut voir encore la providence de Dieu parce que Joseph était un esclave. Et en tant que maître, Potiphar pouvait faire ce qu'il voulait de Joseph. Il pouvait le mutiler, le tuer, en faire ce qu'il voulait. Et non, il l'a jeté en prison. C'était quand même léger par rapport à l'offense qu'il avait pu faire vis-à-vis de sa femme, enfin qu'il avait fait vis-à-vis de sa femme. Alors on ne va pas le lire, mais on voit que finalement la formation de Joseph, elle continue. Mais elle continue maintenant en prison. Joseph est abaissé, il était à la tête de la maison de Potiphar, maintenant il est abaissé, mais toujours avec un poste à responsabilité. Il va apprendre à gérer des hommes, et probablement des hommes qui étaient difficiles, hein, des prisonniers, des meurtriers, des gens qui étaient pas faciles, des hommes violents. Et rien ne se faisait que par Joseph. Il avait carte blanche, c'est lui qui gérait tout dans la prison. Et Dieu le prépare. Et puis arrive que les chansons et le panetier du roi offensent leur maître. Ils se retrouvent en prison. Et une fois enfermés, l'un et l'autre font un songe. Et ils sont incapables d'expliquer leur songe. Alors ils vont en parler à Joseph. Et on peut lire Genèse 40 et verset 8. Ils lui répondirent, « Nous avons eu un songe et il n'y a personne pour l'expliquer. » Joseph leur dit, « N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications ? Racontez-moi donc votre songe. » Et Dieu donc va donner les explications à Joseph. Et ici, on voit que Dieu est en train de préparer la délivrance de Joseph. En accordant l'explication des songes, il est en train de lui donner ce qui sera la clé pour sortir de sa prison. Mais Joseph ne le savait pas. Et Dieu parfois prépare des choses et c'est à notre insu. On ne les voit pas, on ne sait pas. On peut avoir le sentiment qu'on est comme dans une prison dans notre vie à cause des circonstances, à cause d'un enchaînement d'événements. On est comme Joseph asservi, on ne sait pas comment s'en sortir, mais Dieu prépare la délivrance. Il est en train de nous donner la clé. Parce que c'est Dieu qui délivre comme il veut, quand il veut. Alors les deux songes se réalisent, les deux officiers se retrouvent dehors, mais le chef des échansons à qui Joseph avait dit « Mais tu te souviendras de moi hein? », il l'oublie complètement. Regardez verset 23, « Le chef des échansons ne pensa plus à Joseph, il l'oublia. » Et là on voit que c'est Dieu qui décide, c'est Dieu qui décide. Depuis le jour où Joseph fut vendu à la caravane d'Ismaélite, 11 années se sont écoulées, hein, à peu près. En étant large, on va dire qu'il a mis 1 an pour se rendre jusqu'en Égypte, en étant large. Donc ça veut dire que depuis 10 années, il était dans la maison de Potiphar et dans la prison. Alors on ne sait pas, peut-être il est resté 8-9 ans chez Potiphar, et puis voilà, la 10e année, il se retrouve en prison, quelque chose comme ça. Et puis on sait que le chef des échansons va l'oublier 2 ans en prison. Donc, en fait, Joseph est resté 2 ans, 6 mois, 3 ans, on ne sait pas. Quelque chose comme ça en prison. 3 ans en prison, on va dire. Pourtant, la solution, elle était là. Elle était toute prête. Puisque le chef des échansons était sorti de prison avec un bon témoignage de Joseph. Il pouvait l'aimer, il venait lui donner la liberté. Mais c'est Dieu qui décide. Et les chansons l'oublia complètement. Et on voit que la formation de Joseph, elle n'est pas achevée. La délivrance, elle n'est pas encore prête. Le serviteur, là, n'était pas encore suffisamment mûr. Il lui manquait 2 ans à sa formation. Alors il est resté 2 ans de plus dans la prison. Et j'imagine que Joseph ne voyait pas le jour. Il était quand même prisonnier, donc il n'allait pas faire un tour dehors, il revenait, hein. J'imagine que ce n'était pas liberté conditionnelle. Hein. Il devait être avec les clés des cachots, il devait donner à manger aux prisonniers, des choses comme ça, mais il était quand même dans la prison. Quoi. Alors peut-être qu'il arpentait les couloirs de sa prison avec les clés, et voilà, il était dans les ténèbres, hein. Plus de lumière. Pendant 2 ans, plus de lumière, pas de lumière. Et c'est Dieu qui décide. Il peut choisir de nous prolonger dans un temps où on a le sentiment d'être un peu comme dans le noir, où on ne voit pas clair, s'il juge que c'est utile pour le but qui s'est fixé. Et le travail du temps, c'est une autre épreuve qui n'est pas facile à vivre. Le temps s'écoule, on ne voit pas la lumière, mais c'est nécessaire pour tous les croyants. Tous, nous devons passer par le travail du temps. Chercher un serviteur de Dieu dans la Bible qui n'est pas passé par le travail du temps. Tous ont souffert d'attente de quelque chose. Et c'est l'école de la patience qui perfectionne, qui affine son serviteur. C'est Dieu qui décide. Et quand il a jugé que le moment était opportun, c'était le bon moment, alors, hop, il donne le songe à Pharaon. Et là, eh bien, tout s'enchaîne. D'un seul coup, le chef des échansons se souvient de Joseph. Alors, il le dit au Pharaon, et puis, à ce moment-là, c'est Dieu qui délivre et c'est Dieu qui élève. En expliquant le songe de Pharaon, Joseph se retrouve propulsé au commandement de toute l'Égypte. Il devient le second après Pharaon. Et là, eh bien, Joseph est prêt pour accomplir le plan de Dieu. Il est prêt à gouverner avec sagesse l'Égypte. Et puis, quelques années plus tard, eh bien, ça sera l'accomplissement complet du songe, hein, puisque ses frères vont venir se prosterner. Son père va venir également jusqu'en Égypte pour chercher des vivres, de quoi manger. Et Joseph dira à ses frères, à ce moment-là, Genèse 45, 8, « Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. » Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Et on voit que Dieu parvient toujours à ses fins. Il fait les choses pour que tout s'enchaîne et il arrive finalement au but qui s'est fixé. Est-ce que nous savons que c'est Dieu qui a notre vie entre ses mains? On lui appartient parce qu'il nous a choisis. Et il est en train d'accomplir sa volonté dans nos vies. Il dirige, il permet, il oriente, il forme, il éprouve, il prépare, il décide, tout selon son plan. Et il va atteindre son but parce qu'il nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Alors il faut reconnaître que c'est Dieu, si les choses ne vont pas comme on voudrait qu'elles aillent. C'est Dieu. C'est Dieu si ça ne va pas assez vite. C'est Dieu. C'est Dieu si on nous fait du mal. C'est Dieu si ça freine. C'est Dieu si l'orientation change. C'est Dieu si nous sommes éprouvés. C'est Dieu qui prépare la délivrance. Et c'est Dieu qui décidera du bon moment. Il est souverain sur notre vie et il va tout faire concourir à notre bien.